Le commentaire politique de Patrick Clouin.
Salut Patrick.
Bon matin.
Bon matin à toi. Décidément, t'es venu nous parler de M. Mulroney vendredi dernier, puis là, Paul Oud, qui vendredi nous a quittés également. L'as-tu déjà côtoyé, toi? T'es un vieux de la vieille dans les médias, toi.
Oui, en fait, comme candidat, un moment donné, un matin, on avait un 30 secondes à donner notre speech, si on veut, puis on était calculé, puis celui qui finissait sa phrase le plus proche de 30 ans. On était 3-4 candidats qui avaient été choisis. Et j'étais arrivé à 28-29, s'il y avait quelqu'un d'autre qui est arrivé. Et il était tellement
sympathique. En studio, c'était par téléphone?
Non, par téléphone. Okay. Puis j'avais pas de décompte avec moi, alors c'était vraiment là sortir le propos, sortir la clip.
le réalisateur en toi, le technicien en toi, le
C'était comment faire la synthèse rapide.
Il était sympathique, donc.
J'ai trouvé tout à fait. Je pense que tout le monde l'a connu. Je pense que c'est la déception complète.
Petit grand monsieur, je pense.
Oui, tout à fait. Il va avoir marqué.
Il y aura certainement un prix, Paul Oud. Je le mentionnais à Sylvain qui l'a côtoyé. Sylvain Ménard, à qui j'ai parlé un petit peu plus tôt. Puis je vais parler à Alain Pronkin un peu plus tard aussi, qui a été chroniqueur religieux dans beaucoup d'émissions de Paul Oud. Il y aura éventuellement un prix, Paul Oud. Jamais je croirais qu'il va, et c'est Sylvain qui l'a dit, qui va récompenser l'excellence en radio. Alors, on le souhaite.
C'est quelque chose qui n'est pas vraiment... La disque a quelque... C'est plus télé. Alors,
oui,
mais
un prix littéralement remis avoir à quelqu'un. La radio en a grandement besoin parce qu'il y a beaucoup de gens... Il y a de moins en moins de jeunes qui sont intéressés à animer à la radio. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui s'amènent à la radio. Donc, ça pourrait être une façon peut-être de saluer le travail.
Est-ce que tu fais le prix podcast à ce moment-là?
Voyons voir, mais en tout cas, il y aura éventuellement, je présume et je l'espère, un prix Paul Oud qui sera remis. Évidemment, il vient tout juste de mourir, mais dans les prochaines années, il faudra se pencher là-dessus. Bon, loi 21, toi, mon ami.
Oui, écoute, je vais t'avouer, j'ai été surpris du jugement, comme plusieurs.
Okay. C'est
croyais...
La semaine dernière, on n'en a pas parlé parce que t'es venu parler de M. Mulroney, mais bon, c'est là que ça a tombé, ou à peu près, là.
Je croyais que en suivant l'argumentaire de la commission scolaire English, que le projet de loi touchait à des articles de la Constitution, l'article 23, pour la communauté anglophone. Et puis la décision de la Cour d'appel, écrite par la juge en chef, est unanime, des trois juges qui était sur le dossier, dit que ça n'a rien à voir avec cette partie-là de la Constitution. C'était identitaire et linguistique.
Ouais.
Donc, maintenant, les yeux se tournent vers la Cour suprême.
C'est ce vers quoi on se dirige, évidemment. Il y a quelque chose. On parle de signes religieux, évidemment, dans les postes d'autorité. Principalement, c'est la loi 21 concerne ça. Je pense que ça va être difficile de poursuivre en Cour suprême. Je ne sais pas, je le devine en tout cas.
Ben, ils vont y aller. Je veux dire, il y a des dossiers, je veux juste faire un aparté, là, des dossiers américains où la Cour, la DC District Court, a fait un jugement solide, blindé contre Trump. Puis malgré ça, la Cour d'appel va jeter son regard dessus. Alors, dans ce cas-ci, on a une décision en première instance, deuxième instance, on s'en va à Cour d'appel. Cour suprême. Mais tu sais, j'ai entendu aux nouvelles là, de 6 heures à la radio de CBC, puis des gens qui étaient une enseignante du Québec, qui, elle faisait ses bagages, elle quittait le Québec. C'était pas une société dans laquelle elle voulait habiter. Alors, CBC a donné quand même beaucoup d'espace à cette argumentaire-là du dossier.
Moi, on me dit que ça sera pas la seule personne. Puis on le voit dans les dossiers d'immigration également. Là. J'entendais encore ce matin des gens qui s'en vont dans d'autres provinces parce que c'est plus rapide de retrouver les membres de leur famille. On a un examen de conscience à faire de ce côté-là. On a beau dire qu'on déborde puis on sait plus trop comment gérer. C'est possible, mais il faut... l'humanité dans tout ça, c'est important aussi.
Mais moi, je crois que ça va être aussi un ballon politique pour la prochaine élection. C'est drôle, je vois...
Intéressant pour M. Trudeau, là.
Oui, je crois le Liberal Party of Toronto, avec le multiculturalism, vont se servir... Le Globe and Mail en a parlé ce week-end, tu sais, c'est pas quelque chose là, qui est vraiment... aller du champ gauche, là. Je crois que Justin Trudeau et son gouvernement vont se servir de cet outil pour tenter de sauver les côtés, les circonscriptions anglophones de Montréal, puis même aller jouer dans les banlieues.
C'est leur fond de commerce, hein, les libéraux ici au Québec. Là,
et les banlieues de Toronto, dans les communautés culturelles, nous, on va se battre pour vous. Que ça soit valide ou pas en cours d'appel, on n'aura même pas entendu l'ombre d'une décision que ça va être probablement l'outil important. Les journalistes du côté anglophone vont pilonner Pierre Poilievre de savoir où se loge-t-il et où son parti se loge dans ce dossier-là.
C'est des dossiers qui en fait qui différencie M. Poilievre de M. Trudeau. Il y a bien des points, là, mais les dossiers comme ça, les dossiers concernant l'immigration, concernant le port de signes religieux, la laïcité, etc., ce sont des points importants. Puis j'ai l'impression que M. Trudeau veut l'affronter sur ce terrain-là maintenant.
T'sais, la décision de la Cour d'appel, elle est clinique. Là. T'sais, c'est tout est là, pas de dissension. Tout... Alors là, on va rentrer un ombrage émotionnel.
Il en pense quoi, M. Poilievre, de tout ça?
On a tenté de... Les journalistes ont tenté de le questionner sur le dossier. Il n'y en a pas vraiment pour l'instant. Puis vendredi, c'était M. Mulroney qui prenait la... qui avait la... Le sujet de la journée, alors... mais ça va être intéressant, comment
ça... lui a permis de respirer un petit peu, cela dit.
Oui, tout à fait. Alors, ça va leur donner... Ils vont devoir se faire... Écoute, aujourd'hui, il y a une partielle dans la circonscription de Durham, en Ontario. Qui était la circonscription de O'Toole.
OK.
Alors, aujourd'hui, il y a une élection. Les conservateurs, c'était leur circonscription. Ils mènent dans les sondages. Alors, ça va être intéressant de savoir, ils gagnent de combien? Est-ce qu'ils vont l'échapper? C'est un premier test à savoir, dans tes circonscriptions, es-tu capable de faire sortir le vote? Es-tu capable de gérer localement dans une partielle?
C'est un château fort.
Alors, ça va être intéressant de voir comment tout ça va gérer. Ouais. Présentement, selon les différents sondage, quand on commence à regarder le Canada 338, on donne les libéraux les conservateurs à 210 sièges sur 200, on est rendu à 338, qu'on passe à 343 sièges. Donc, une augmentation de 91 circonscriptions, tandis que les libéraux, on leur en donne 68, une perte de 98. Alors, on est à un an et demi des élections, dépendant si on est dans le printemps 2025 ou l'automne, mais ça va être intéressant de voir comment
quelques éternités quand même, s'il y a élection un petit peu plus tard.
Alors, écoute, j'ai fait une petite recherche suite à notre discussion de vendredi dernier, quand il y a eu le raz-de-marée des conservateur sous Brian Mulroney en 1984.
Parce que tu étais venu nous parler, puis on va restituer l'auditeur et l'auditrice. Tu étais venu rendre hommage à M. Mulroney, évidemment, puis il y avait eu un raz-de-marée à l'époque, il y avait eu 50 % des voix. On ne verra plus jamais ça, un parti qui obtiendra 50 % des voix, à moins que je me trompe. Donc, ça voulait dire beaucoup, beaucoup de députés conservateurs
un peu partout au Canada. C'est plus difficile aussi dans un monde à 5 parties aussi.
Oui, puis des différences culturelles importantes entre les différentes provinces aussi.
Alors, localement, pour nous, dans les ondes où nous sommes, où on nous écoute, Nick Leblanc avait gagné dans Longueuil. Fernand Jourdenais, qui avait gagné dans La Prairie. Grisé avait gagné dans Chambly et Marcel Dany avait gagné dans...
Marcel Dany, si on se souvient de lui.
Oui. Qui était dans Verchères, les Patriotes. Alors ça, c'est les quatre circonscriptions là qui étaient, on peut dire, le Grand Longueuil, la Grande Rive-Sud qui étaient tous...
Beaucoup d'élus à Montréal également, conservateurs, ou c'est Montréal était resté à l'époque beaucoup rouge, je pense.
Ben, je te dirais, oui, Montréal, en tout, c'était 58 progressistes conservateurs, 17 libéraux. Et,
à Montréal?
Au Québec.
Au Québec, OK.
Et je dirais que la majorité des circonscriptions étaient à Montréal.
OK.
Ceci dit, en région, les noms, il y a deux noms qui ont survécu, qu'on va se comprendre.
Jean Chrétien,
Saint-Maurice et Jean Lapierre dans Shefford.
OK, qui a fondé le bloc
Longtemps. Ouais, lui, mais... il a fait un aller-retour au bloc et il était revenu.
Ouais. Les autres sont...
Le reste, la carte au Québec était progressiste.
Romane à l'époque, alors M. Guilbeault, qui était devenu député.
Alors, l'autre, en région, était dans Richemont, un dénommé Tardif.
OK.
Alors, mais le reste était vraiment là, centré là, sur l'île de Montréal.
Tardif, je pense qu'ils vont, je pense. Hein? Oui, je me souviens, c'est à côté de Drummond, ça.
Oui. Alors, donc, c'est mon petit survol là, que j'ai...
On s'arrête un petit peu, le temps d'aller vérifier si c'était Yvon Tardif. Et puis, ben moi, je vais faire la circulation météo, même si on est dans la semaine de relâche. Patrick Clown, toujours à mes côtés. Voilà, de retour. Oui, mon grand-père était de Sutton.
Ah.
Oui, mon père aussi.
Est-ce qu'il faisait du ski? Ou...
Mon père faisait du ski, oui. Il nous racontait des trucs qu'il faisait avec des choses qu'ils ont faites avec des barils, entre autres, qu'il défaisait. Il faisait du ski là-dessus à Sutton.
Ah oui?
Il faisait des expériences.
Une forme de train de sauvage.
Il laissait les skis de côté, mais il s'en inventait, eux autres. Écoute, bon, oui, des taxes, on parle de taxes, on aime ça parler de taxes.
En fait, au Québec, ça passe en bas du radar, là, mais il y a deux trucs qui se passent dans l'Ouest canadien que je crois qu'il faut porter attention. D'une part, en Saskatchewan, il y a une guerre ouverte entre le gouvernement de Saskatchewan et le gouvernement Trudeau sur la taxe sur le carbone. Au lendemain de la décision du gouvernement Trudeau d'obtempérer au caucus de l'Atlantique et donner un congé de taxe carbone pour l'huile à chauffage aux grandes dames du reste du pays, mais le Saskatchewan a dit, écoute, si eux autres peuvent avoir un break sur la taxe carbone sur le chauffage, nous, nos citoyens devraient avoir un break, excusez-moi d'expression, du moins un rabais, sur l'huile, sur le gaz naturel au chauffage.
Un coup de pouce.
Et le gouvernement a dit non. Puis Stephen Guilbeault a dit, si on modifie encore les paramètres de la taxe sur le carbone, je démissionne. Alors, donc, M. Trudeau ne veut pas aller là, mais le Saskatchewan a dit, parfait, nous, on ne va pas faire à remettre les redevances qu'ils ont collectées pour les envoyer au gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral a dit, parfait, à ce moment-là, nous, le rabais qu'on donne aux citoyens, qui est techniquement, selon leur calcul, plus que ce que les gens vont payer en allant à la pompe, on va couper les redevances aux citoyens. Alors, on a vraiment une guerre de tranchées entre la province et le gouvernement fédéral. Puis bon, techniquement, il y a des lois sur... Il faut suivre les lois telles qu'écrites. Mais là, c'est vraiment une guerre de tranchées sur les principes que si tu donnes un bonbon à un secteur du pays, ben tout le monde devrait être capable d'en profiter.
Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou.
Alors, on a cette guerre ouverte entre le gouvernement de la Saskatchewan et la taxe sur le carbone. Puis, la province d'à côté a amené une nouvelle taxe, le gouvernement de Mme Smith en Alberta, ont décidé de mettre une taxe spéciale sur les voitures électriques.
Ah bon?
200 $ annuel. Et
Mme Smith, c'est en Alberta.
En Alberta. Et ce qui est intéressant du raisonnement de cette taxe, c'est, écoute, ceux qui ont des voitures à essence, par les taxes qui sont assujetties au tarif au litre, ben ça paye pour les routes, ça paye pour l'entretien des routes, ça paye pour construire.
En ayant un char électrique, on paye pas pour ça.
Exact. Et en plus, les voitures sont beaucoup plus lourdes à cause du poids des batteries, qui crée plus de
c'est pas tiré par les cheveux un petit peu patrie.
Non, mais je trouve le raisonnement est là.
Ouais, le raisonnement est là, mais il y a quelque chose à
Mais c'est un point aussi là, qui a été soulevé aux États-Unis. Mais effectivement, sur les routes et les ponts, les voitures électriques sont beaucoup plus lourdes. Et qui va créer
De l'usure
peut-être prématurée.
200 pièces par mois par utilisateur.
Alors, entre toi et moi, 200, est-ce que c'est... Mais il y a un principe qu'eux viennent de placer. C'est sûr que c'est la province qui produit le plus de pétrole.
Pétrole sale aussi, hein, vous dire.
Ben, entre autres, mais entre c'est pas tous. et c'est là qu'il est fort intéressant de voir comment le fait qu'eux, maintenant, sur les voitures électriques, il va y avoir une taxe spéciale. Y a-t-il
d'autres endroits où on fait ça? Au pays ou ailleurs?
Je n'ai pas vu. Je pense que c'est la première, mais est-ce que c'est des choses que la
Saskatchewan... Seront-ils pionniers?
C'est intéressant, mais pense-y, la voiture est plus lourde, tu n'achètes pas d'essence, donc tu ne contribues pas au trésor pour faire...
Je me sens mal là-dedans quand même.
Tu sais, mais je trouve... Ben, écoute, mais tu fais quoi? Ils ont une voiture électrique, ils se servent du réseau routier.
Ouais.
Est-ce qu'ils doivent contribuer? Oui, ils le font par leurs impôts,
mais ils polluent moins. Donc, moins de maladies, moins de cancers. Si tout le monde avait un char électrique, peut-être que ça serait un peu plus simple aussi.
Oui, mais regarde, on va rajouter, tiens, tant qu'aller au ridicule, on va y aller une couche de plus. Il y a un projet de loi privé de Charlie Angus du NPD présentement en débat à la Chambre des communes qui dit que, en se basant sur le principe que quand ils avaient des publicités pour les cigarettiers ne pouvaient pas faire la publicité, ne pouvaient pas s'annoncer, mais là, ils disent que l'industrie des fossiles n'ont pas le droit de faire la publicité.
Bon.
Sinon, ils auraient des amendes de plus de 1 million et 2 ans de prison.
La prison?
Oui. Alors, écoute, alors même si tu dis que... Le gaz naturel est 40 fois moins polluant que le charbon ou 20% moins polluant que le pétrole. Mmh. Mais simplement de dire deux vérités serait illégal dans la conception de ce projet de loi-là. Alors, là, c'est
Il y a matière à réflexion, honnêtement, Patrick Clown.
Depuis quand qu'on a le droit, on n'a pas le droit d'exprimer une vérité pour ne pas être... C'est comme, est-ce que c'est la vérité que tout le monde veut prendre? J'en conviens. Mais juste l'idée.
Donc, nous, on sait que Trump disait qu'un mensonge 1000 fois répété devenait vérité. Donc,
mais ça, c'est pas juste Trump. Il y a eu Hitler et d'autres qui l'ont répété.
Je te laisse là-dessus.